RMC.
J'ai toujours supporté l'after-foot, c'est mon équipe du cœur.
C'est voyager, jouer, se régénérer, voyager, jouer, se régénérer, voyager, jouer, se régénérer,
encore une
voyager.
Fois, s'il te plaît.
Toujours 0-0 dans cette finale de la Ligue des Champions, ça va être tiré de la droite vers la grosse.
Salut Nico, salut à tous. D'un incroyable. Seul coup, le degré de bogositude de ce plateau
monte massif.
Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec les 4 drôles de dames sur RMC. Merci d'être avec nous. 32-16 ouvert. Vous nous appelez, vos messages également sur le chat de la chaîne YouTube de l'After et sur Afterfoot TV. Très rapidement, détour par Lorient. Match amical des espoirs français face à la Serbie. Xavier Grimaud est sur place. But incroyable de Matistel, Xavier.
Ouais, salut Nico, salut à tous. Effectivement, 1 minute 20 de jeu seulement et le magnifique but de Matistel. Une attaque qui part de la droite. Il repique dans l'axe et l'intérieur du pied gauche qui termine dans la lucarne du gardien serbe. Superbe but du joueur de Tottenham. 1-0 donc pour les Français donc dans ce match amical. On rappelle qu'ils avaient un match de qualification vendredi, mais que le match a été reporté suite à l'accident la veille du match du bus luxembourgeois, l'adversaire des Bleuets. 1-0 donc pour les Bleuets, Gérard Baltic. L'on joue depuis 9 minutes au Moustoir où il y a à peine 4000 personnes. C'est un peu tristoun.
Dis-moi, Daniel, c'est pas bon pour l'Italie, pour un national. Mené 1-0 par Israël après 22 minutes de jeu. Un but contre son camp en plus.
Oui, donc oui, c'est Locatelli qui a mis la balle dans les bouts, donc je pense qu'on peut le donner à l'Italie, ce bout-là, si on est d'accord.
Ouais, sauf
non,
que...
mais oui, Israël met la pression et l'Italie, elle n'arrive pas à sortir la tête de l'eau.
Si on en reste là ce soir, l'Italie sera toujours troisième du groupe avec 6 points, à 6 points d'Israël et de la Norvège. Israël aura un match en plus, certes, mais quand même, ça va commencer à sentir le roussi pour la qualif, pour le mondial, pour la nationale qui a manqué les deux dernières Coupes du Monde, faut-il le rappeler. Oui. Alors Julien, c'est quoi ce débat-là qui surgit nulle part pendant la trêve internationale? J'imagine que les Anglais s'ennuient un petit peu et qui oppose Wayne Rooney et Michael Owen. Il y a un débat en France qui a agité il y a quoi, 3 semaines, qui était le meilleur, qui a la meilleure carrière entre Olivier Giroud et Zlatan Ibrahimovic. Chez toi, c'est un peu pareil, ça a pris feu sur les réseaux notamment.
Ouais, un petit peu. C'est vrai que Michael Owen était invité par Rio Ferdinand, qui fait des émissions, qui fait des contenus sur les réseaux sociaux, etc., sur YouTube. Et l'interview de Michael Owen, qui est d'ailleurs très intéressante, il y a plein de choses intéressantes. C'est quelqu'un d'assez intéressant, Michael Owen, qui est plutôt marrant aussi. Et puis à un moment, la question vient sur les jeunes joueurs. Et Michael Owen a bien sûr été très très précoce dans sa carrière, puisque il a commencé à Liverpool à 17 ans. Et puis il parle de Mbappé, de Lamine Yamal. C'était vraiment un truc d'abord assez global. Et puis à un moment, je sais pas, c'est Michael Owen lui-même qui dit mais franchement, même en Angleterre quoi, qui était meilleur que moi à 17 ans quand je débute. Donc forcément, Rio Ferdinand balance le nom de Wayne Rooney qui est l'autre petit prodige de l'histoire du football anglais. C'est les deux qu'on a connus les plus précoces, les plus jeunes. Et donc Michael Owen répond non, sincèrement, il y a même pas de match quoi, il y a pas de débat entre Rooney et moi, c'est voilà, à 17 ans, j'étais bien meilleur que Wayne. Donc forcément, la machine médiatique qu'on connaît bien en Angleterre s'est mise en marche. Forcément, c'était un peu obligatoire. À tel point qu'à un moment, Michael Owen lui-même a répondu, si tu veux, à son propre point de vue, en disant « Oh, attendez, moi à 17 ans, j'ai marqué 18 buts en Première Ligue, j'ai terminé meilleur buteur de la Première Ligue. » Très bien. À 17 ans, quand Rooney avait lui commencé sa carrière, il est un peu plus jeune que Owen. À 17 ans, lui, il marque 6 buts dans sa première saison, donc à 17 ans de Première Ligue. Owen continue. À 18 ans, moi, j'ai marqué 18 buts. Encore une fois, je finis meilleur buteur de la Première Ligue. À 18 ans, Rooney marque 9 buts. Dans nos 7 premières saisons chez les pros à tous les deux, donc la mienne et celle de Rooney, je marque 117 buts contre lui, 80. Et puis après, il continue un petit peu en disant, voilà, à cet âge-là, il n'y avait pas de photo. C'est vrai, je trouve ça vraiment intéressant. Alors après, tu peux comparer un petit peu, puisque un est plus jeune que l'autre, les époques aussi, les équipes pour lesquelles ils ont joué. Le Liverpool de Owen était bien plus fort que le Everton de Rooney, par exemple, avant que Rooney aille à Manchester United, même s'il allait jeune à Manchester United. Tu peux regarder aussi à 22 ans, où Rooney avait déjà remporté la Premier League, ce que n'a jamais remporté Michael Owen, par exemple. Donc, c'était assez intéressant. Et t'as forcément eu des pros Owen, des pros Rooney, des gens qui ont vu jouer Owen très jeune. Et je vous rappelle la Coupe du Monde 98. Le but de Michael Owen contre l'Argentine, c'est quand même un but extraordinaire à son âge.
Bien sûr.
Une compétition pareille dans une équipe aussi forte que celle de l'Angleterre, en tout cas avec aussi autant de talent et de personnalité que l'équipe d'Angleterre de l'époque. Mais le premier but de Wayne Rooney pour Everton contre Arsenal à 16 ans en Première Ligue, il est extraordinaire aussi. Donc il y avait vraiment, c'était marrant, t'avais vraiment deux courants qui s'opposaient un petit peu. Pour moi, la réponse, elle est très simple. Oui, je pense qu'à 16-17 ans, Michael Owen, c'était vraiment un phénomène extraordinaire de rap, de vitesse, d'efficacité devant le but, en une touche, en deux touches. Il n'y avait rien à dire. C'était un joueur qui avait été façonné en centre de formation. Les Anglais, à l'époque, avaient un genre de petit Clairefontaine aussi, comme l'INF Clairefontaine, d'où Michael Owen est sorti. C'était, voilà, il était comme ça. Il était bien plus mature que les gamins de son âge. Voilà. Rooney était peut-être pas aussi fort à ce moment-là, mais était déjà plus complet qu'Owen. Mais Rooney, c'est un joueur de rue, c'est un joueur des rues de Liverpool qui a joué dans la rue pendant toute sa vie jusqu'à ce qu'il débute chez les pros à 16 ans, même s'il a été au centre de formation d'Everton où il a, je suis sûr, appris beaucoup de choses, mais c'est dans la rue qu'il s'est fait, c'est dans la rue qu'il s'est façonné, que son jeu s'est développé, et ça restera, et c'est resté toute sa vie de toute façon un joueur de rue, un joueur de foot de la rue. Je pense que Owen était sûrement un meilleur buteur que Rooney dans toute sa carrière, mais encore plus au début, alors que Rooney a toujours été un meilleur joueur dans son ensemble, finalement.
Merci, exactement. Et la carrière de Rooney est plus aboutie que celle de Michael Owen.
Tout à fait.
Au final,
tout
également. Enfin,
il était beaucoup plus blessé aussi que l'autre,
ouais,
dans le cas de Michael Owen, parce que c'est sûr qu'après 25 ans, c'est plutôt la même histoire pour lui en termes de blessure. Mais voilà, c'est marrant que les deux, c'est vraiment les deux prodiges du football anglais, plus que n'importe qui d'autre au monde, même plus qu'un Rashford, par exemple, dans leur histoire, s'opposent un petit peu comme ça, mais de façon très
C'est ce qu'offre aussi quelque part maintenant. Il y a du bon et du moins bon. Hein, les podcasts présentés par des anciens joueurs, quoi. T'as une parole beaucoup plus libérée et ça se chauffe un peu plus facilement que dans des médias traditionnels.
Il y en a surtout un qui a une tête de comptable et l'autre, c'est la pègre de Liverpool.
Oui, bah c'est ça. C'est un Peaky Blinder.
C'est pas tout à fait la même chose. Moi, j'ai toujours dit que Rooney, il a un seul défaut, il n'était pas allemand, quoi. Mais ce mec-là,
tu l'adores, Rooney.
Comparé, en plus, c'est pas le même poste. C'est-à-dire qu'il est créé. C'est à l'époque, on considérait aussi que Rooney, c'était un numéro 10. Quoi. Il y avait pas que ça. Il savait faire le jeu et tout. Owen, honnêtement, enfin, bon, c'est pas.
Bah, il était un peu chiant. Il était un peu chiant, Owen. Il est plus sauvage, Rooney, je trouve, tu vois.
Ah oui.
Spontané aussi. Gars de rue, comme tu l'as dit. Ça devait.
C'est ça. Il laisse une marque beaucoup plus importante, quand même, j'ai l'impression.
Oui.
Et puis Rooney savait tout faire, défendre, attaquer, tacler de la tête. Voilà, techniquement, c'était impressionnant. Mais quand tu regardes Owen à 17-18 ans, les buts que je mentionnais tout à l'heure en Première Ligue, là, sur ces deux premières saisons, à cet âge-là en plus, de marquer 17 et 18 buts en Première Ligue, dans des saisons quand même où tu as des très très grands attaquants, des très grands défenseurs, tu peux même considérer ça plus dur que la Première Ligue d'aujourd'hui, par exemple. C'est extraordinaire de vitesse, de vivacité, d'adresse devant le but. Il est incroyable, quoi, à cette époque-là.
Bah, c'est le jeune premier, Michael Owen. L'autre est un peu plus
et
punk.
Et le ballon d'or, hein. Ça reste le dernier ballon d'or anglais aussi.
C'est vrai, t'as raison. Mais ça, ce ballon d'or à l'époque.
Ah, si, c'est vrai.
C'était quel les concurrents de Michael Owen à l'époque pour ce ballon d'or-là, franchement?
Il y avait que lui.
Il faudrait regarder ça.
C'est juste une année où il n'y a pas de compétition.
Il y avait un boycott.
Oui, il n'y a pas de compétition à cette année-là, mais bon. J'ai oublié qu'il était deux fois meilleur buteur de Première Ligue à 17 et 18 ans. Ça, c'est beau. Raoul finit deuxième cette année.
Exactement.
Et Kahn, Oliver Kahn, troisième. The classement Ballon d'Or à l'époque. Voilà.
Bah 2001, c'est le Bayern qui gagne la Ligue des Champions. Et avec un collectif plus que.
Il y a un Totti cinquième.
Cinquième Totti.
Voilà. Bon, en gros, la première place, c'est l'escroquerie complète et tout le reste.
Bon, voilà les gars. Si vous devez ressortir un prodige chez vous, là, au-dessus du lot dans l'histoire de votre foot national, ce serait Daniele, c'est qui chez toi le prodige? Toujours
Cassano.
C'est Cassano, bien sûr. On connaît la suite de la carrière.
Oui.
Un beau gâchis également. Edgar, ce serait quoi toi en Espagne?
Sincèrement, la Minimal. Bah,
c'est la Minimal, voilà, tu l'as dès maintenant. Et Polo, j'étais en Allemagne, prodige.
Ah, moi, aujourd'hui historiquement, pas que maintenant, mais pour moi, c'est celui qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir, c'est Bernd Schuster. Faut dire ce que disait Platini comment Platini parle de Bernd Schuster à l'époque. Quoi.
Bon, voilà. En Angleterre, il y en a plusieurs en Angleterre. Hein. Et puis, il y a le dernier qui arrive, dont Thomas Tuchel a dit qu'il le regardait. C'est Doman, c'est ça, il en parlait encore en conférence de presse. Thomas Tuchel il dit bien sûr je surveille. C'est tout des sélectionneurs maintenant. Quand tu leur poses une question, oui je regarde. Voilà, ça veut tout rien dire.
Ouais, ils peuvent pas dire autre chose.
Ils peuvent pas dire autre chose.
C'est facile à dire.
Ouais, si tu peux dire, écoutez, il a 15 ans et demi, doucement les amis, on verra dans quelques temps, quoi. Tu vois, c'est aussi possible
c'est
de
vrai,
dire
ça. Ça collerait pas
trop dans le jeu de la précocité.
L'idéal anglais, oui, mais les Anglais aiment quand tu.
Oui, tu vois, ils aiment ça.
Chauffe tout le monde.
Comme il est un peu démago, Thomas Tuchel parfois, voilà. Alors, du coup, on peut aller Manu Koné. Ça, c'est un autre sujet, mon cher Daniele, parce que il se trouve que nos confrères de SoFoot ont agacé les tifosi de la Roma. Raconte-nous ça et pourquoi, en fait.
Bon, et parce que ils ont posé la simple question, mais on connaît qu'est-ce que c'est qui est fait encore à la Roma. Et c'est une question franchement légitime, je pense. Parce que c'est vrai que c'est un joueur que dans les dernières années, il a pris beaucoup de valeur. Aussi en équipe de France, Deschamps, il vient de dire qu'il fait partie des joueurs sous-cotés ou sous-évalués. Mais les tifosi de la Roma, ils l'ont bien connu cette année et il s'est affirmé comme un des meilleurs du championnat. Et on sait que l'Inter, elle a essayé de l'arracher. Quand ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à prendre Lookman et que la Roma, ils ont bien fait de le garder, ils ont tout fait pour le garder même. Mais bon, les tifosi de la Roma, ils sont allés sur Twitter, ils ont posté des images de la flèche en flamme de Notre-Dame ou des réponses même plus vulgaires ou antipathiques.
Ils sont susceptibles, les garçons, là. Hein, susceptibles.
Ah oui, très. Très, 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 il faut pas toucher les joueurs de la Roma, de la Lazio. Et, mais la question, voilà, c'est vrai, c'est une vraie question. Monoconé, c'est un des meilleurs milieux au monde en ce moment et jusqu'où peut-il aller? Lui, il a répondu en conférence de presse aujourd'hui. Il a dit qu'il est reconnaissant de la Roma, que c'était une des rares équipes qui a cru en lui pendant la fenêtre des transferts après les Jeux Olympiques. Et c'est vrai, parce que quand il est venu de Mönchengladbach, il avait les yeux de Milan, assez Milan, il voulait chercher, mais la Roma, elle a été plus décisive, mais il n'y avait pas la queue pour Manoukone. Et là aussi, à ce moment-là, c'est un joueur qu'il faut quand même bien regarder pour apprécier, parce que mais c'est défensif.
Il arrive à maturité, c'est défensif, la projection est impressionnante. Polo, oui. Tu l'as connu à Gladbach pendant 3 saisons, toi. Quel souvenir il a laissé? Est-ce qu'il y a un peu de regret de ne pas l'avoir gardé en Bundesliga, notamment? Il aurait pu trouver une place.
Pas forcément, parce qu'en fait, ces 3 années à Mönchengladbach, c'est les 3 années où on nous explique qu'il a du talent et on ne le voit pas spécialement sur le terrain. Mais je ne suis pas persuadé que la boulie était faite pour lui, en fait. Je pense que ça va être mieux pour lui que la Serie A est mieux à son correspond beaucoup mieux à son profil. Mais moi, je reste un petit peu sur ma faim de ce que j'ai vu en Bundesliga.
De toute façon, la suite de l'histoire, on la connaît. Il ira chez Julien Laurence et Manu Cognet deviendra un frérot de Julien. C'est pas déjà le cas.
Tout à fait. Bah, en plus, c'est un Parisien, hein, comme moi.
Ah oui, c'est un Parisien en plus. Donc, ça va aller très vite. Oui, tu vas récupérer le 06 et dans les 10 jours.
Il y a quelques clubs qui s'intéressent à lui cet été déjà dans l'Angleterre.
Lesquels?
Ça viendra l'année prochaine. Des clubs Chelsea, de Manchester, j'imagine. Par exemple.
Hein, Manchester.
Non, Manchester, il est un peu trop vieux. Non, des clubs de Manchester. Moi, je pense qu'il aurait fait beaucoup de bien à Manchester United s'il avait voulu y aller. Je ne sais pas si ça faisait partie de ses plans de carrière, mais oui, je pense que
c'est. Je ne sais pas si en ce moment, Manchester United, c'est mieux que la Rome. Hein.
Oui, non, tu as raison, mais bon, c'est pour ça. Je ne sais pas s'il y serait allé, mais oui, c'est vrai qu'il y a quelques clubs qui ont regardé ce qui était possible de faire là-bas.
Manu connaît. Qu'on verra peut-être demain soir avec l'équipe de France. Polo, ça y est, le Bayer Leverkusen a trouvé le successeur de Ten Hag.
Ouais, Kasper Juhlmann, alors ce n'est pas un inconnu du football allemand, déjà parce que c'est quelqu'un qui avait une cote assez énorme il y a longtemps, parce que Jürgen Klopp en avait fait une très belle publicité, parce que Juhlmann avait écrit un livre que je n'ai pas lu, parce que de toute façon je ne lis pas le danois, et Klopp avait dit qu'il avait été impressionné par la façon de voir le football de Kasper Juhlmann. Le problème, c'est que Juhlmann est arrivé à Mayence à l'époque, en successeur de Thomas Tuchel, si ma mémoire ne
2014,
me fait pas
défaut. C'est ça,
ouais. C'est ça. Et ce fut, entre la théorie et la pratique, ce fut un bide total. Mais c'est quelqu'un qui jouit un petit peu comme Ten Hag, j'ai envie de dire, qui jouissait en tout cas d'une très belle réputation. Et maintenant, évidemment, à Leverkusen, il va devoir montrer que tout ça fonctionne. Donc on sait qu'avec l'équipe du Danemark, il a fait des excellents résultats.
Demi-finale de l'Euro 2001.
Ouais, il a aussi à Nordjylland, évidemment, où il avait le temps d'être un bâtisseur, c'est bien. Donc c'est peut-être ce qu'a besoin le Bayer 04 Leverkusen, qui d'ailleurs est dans une défense à 3, est un petit peu la spécificité de Kasper. Maintenant, je reste. C'est une prise de risque, pour être honnête. J'espère qu'il va réussir, parce que le gars est super sympa en conférence de presse. Il t'explique le football comme beaucoup de professeurs de football. Mais à Leverkusen, il y a quand même un objectif de résultat. Et ce serait bien qu'il fasse, notamment en Ligue des Champions, un beau parcours.
Voilà, Kasper Juhlmann, nouveau coach du Bayer Leverkusen. Allez, 3e minute de la soirée, elle est espagnole. On envoie la musique, Polo. Ah voilà, ça y est, on a la première soupe de la saison d'Edgar Grosso.
Cette chanson, elle vient de deux artistes hispanophones mais sud-américains, Danny Ocean et Capo. Mais je vous rassure, elle a très très bien marché en Espagne. C'est pour ça aussi que je la mets. Le titre de la chanson, c'est Imagínate, imagine-toi, imagine. Et c'est ce que je vais vous demander de faire, hein, si vous voulez bien. Je vais vous demander d'imaginer avoir la vie extraordinaire de l'ailier droit Jorge de Frutos. Il a vécu sa première sélection avec l'Espagne ce week-end. Imagine que tu nais et que tu grandis dans le minuscule village de Navarrés de Enmedio, en pleine campagne, à l'est de Valladolid. Imagine que dans ce village, il n'y a que 92 habitants. Ces 92 habitants, tu les connais presque tous parce que tes parents sont ceux qui gèrent le petit bar du village. Et c'est là où tout le monde se rassemble forcément. C'est juste en bas de chez toi. Imagine que t'adores le foot, mais qu'il n'y a pas de terrain. Alors tu tapes tes premiers ballons contre un mur de pelote basque. Puis tu commences à jouer pour un club local. Et à 19 ans, c'est le grand chamboulement. Tu te fais repérer par le centre d'entraînement du Real Madrid. Après quelques saisons en Liga, Valladolid, Levante, Rayo, tu découvres La Roja. À 28 ans, tout ton village regarde ta première sélection dans le bar de tes parents avec tous les médias du pays, le même bar où tu reviens encore tous les étés, pour essayer d'aider tes parents à servir tous les clients. Et bah cette villa que vous venez d'imaginer, c'est celle de Jorge de Frutos. La presse espagnole l'a désigné comme le symbole de ce qu'on appelle l'Espagne vide. C'est un peu comme la diagonale du vide en France. C'est une partie du pays à faible densité de population, voire à très faible densité de population. C'est seulement le deuxième joueur de l'histoire de sa province, la province de Ségovie, a joué en sélection. Et ça, même ses parents, même lui, il l'a dit, ne l'avait jamais imaginé.
Voilà pour la minute d'Edgar. Dans un instant, attention, gros débat, dont le Dame a-t-on besoin d'un grand neuf pour gagner une grande compétition. Il va vouloir forcément se la raconter avec ses sélections espagnoles encore une fois. Alors que la Suisse est en train d'étrier, mon cher Polo. C'est la Slovénie, c'est ça, 3-0 déjà.
La Slovénie n'aime pas les corners. De but sur corner, Elvedi et puis Mbolo. Et
puis je vous rappelle également que l'Italie est toujours menée 1-0. Face à Israël, rien ne va plus pour la nationale. Rien ne va toujours pas pour la nationale. Reste avec nous, la suite des Drôles de Dames sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec les 4 Drôles de Dames sur RMC jusqu'à 22h, l'After dans la foulée avec Gilbert, Daniel, Jean-Louis Flogotro, invité événement, Joseph Ougourlian, le propriétaire du Racing Club de Lens, pour parler eh bien, notamment de la gestion de la Ligue de football professionnel. Lui, en tant que meneur de la fronde manager de la LFP, bien sûr, anti-Vincent Labrune. Dans un instant, 22h sur RMC, l'After. D'abord, on prolonge avec les Drôles de Dames, bien sûr. L'Italie a égalisé, Daniele, magnifique.
Bah oui, bah oui. J'ai toujours cru en Moïse Kean, même 10 minutes avant les buts, quand il a raté un but de 20 cm de la ligne. Et après, il a marqué de l'extérieur de la surface.
C'est du Moïse Kean, exactement. Ça résume un peu sa carrière. L'Écosse mène 1-0 en terre biélorusse. La Suisse, je
chez disais... Adam, ce qui joue chez Daniele d'ailleurs.
Ah oui. Chez Adams. Et puis la Suisse mène toujours 3-0. Le Kosovo mène 2-0 face à la Suède. Surprise dans ses qualifs pour le mondial 2026. Et puis voilà d'autres résultats à venir, hein, dans la soirée, bien sûr 1-0 pour le Danemark sur le terrain de la Grèce également, et puis la Croatie mène 1-0 face au Monténégro. Alors Edgar, tu proposes un débat ce soir, hein, pour encore plus fanfaronner avec la sélection espagnole. Une sélection a-t-elle besoin d'un grand numéro 9 pour gagner une grande compétition? Bon, chez toi la réponse est toute faite, hein, pas forcément. Le dernier Euro l'atteste, hein, Morata n'est pas un grand numéro 9 par exemple.
Oui, et surtout quand on voit, enfin, j'ai pensé à ça par rapport au match d'hier avec Oyarzabal qui joue en faux neuf, qui fait un triplé de passes décisives, Merino qui met 3 buts, et en fait, tu as une équipe qui clairement n'a pas de grand numéro 9, qui clairement n'a pas de, qui ne joue pas avec un numéro 9 attitré, puisque tu l'as dit, le seul vrai numéro 9 de cet effectif là c'est Morata. On n'est pas sur un grand numéro 9 non plus, même s'il a une belle carrière. Et finalement, quand on pense à nos 4 pays respectifs, à part Harry Kane qui est un grand numéro 9, j'ai pas l'impression qu'il y ait un joueur de classe mondiale à ce poste là c'est-à-dire vraiment dans les 5 meilleurs de ce poste. Moi, mon avis, j'ai plutôt l'impression que la clé, c'est pas forcément le profil de joueur, c'est plutôt l'occupation de l'espace, parce que t'as besoin d'occuper cet espace quoi qu'il arrive, parce que sinon tu peux avoir, comme c'était le cas par exemple par moment au Real Madrid la saison dernière, où t'as plusieurs centres qui vont arriver et personne qui se jette devant le but, là ça va être un problème. Mais quand cet espace là est occupé, quand les joueurs à tour de rôle viennent jouer en remise, quand ils viennent avoir énormément de mouvements, que c'est bien coordonné, et que bah comme à l'image de l'Espagne où un centre tu vas avoir à la réception
déception hier Zabal, le centre d'après ça va être Merino, le centre d'après ça va être un ailier ou un milieu. J'ai pas l'impression que ce soit gênant, on l'a vu avec le Paris Saint-Germain notamment la saison dernière qui jouait la plupart du temps sans vrai numéro 9 de métier. C'est pas pour autant qu'il y avait toujours un trou béant dans la surface et personne à trouver. J'ai l'impression que jouer avec un mauvais numéro 9 là c'est problématique, mais jouer sans vrai numéro 9, tu peux faire des belles choses si tu réfléchis ton jeu par rapport à ça et si t'as d'autres joueurs qui arrivent à occuper l'espace, qui arrivent à être aussi bons dans les duels aériens parfois. Je pense que l'Espagne va attaquer la Coupe du Monde sans vrai numéro 9 et je pense que ça va pas forcément être un gros problème pour elle.
Bon, alors, j'ai remonté un tout petit peu, hein, tu vois, jusqu'à l'Euro 2008 pour voir si les sélections vainqueurs d'une compétition internationale avaient un grand numéro 9. En 2008, il y avait Fernando Torres, pour considérer que c'est un grand 9. David Villa en 2010. En 2012, l'Euro vainqueur remporté par l'Espagne, David Silva, qui voilà, qui n'était pas un 9, tout simplement. Klose en 2014. 2016, non. Euro 2016, Ronaldo, Nani. Klose, grand numéro 9, Polo ou pas? Quand même, énorme.
Non, mais il n'est pas titulaire au début de la
compétition. Oui, il finit la compétition quand même.
Thomas Müller, c'est Thomas Müller.
Tout à fait.
Au début.
Il est titulaire en finale, Klose.
Oui. Ouais.
Ronaldo, Nani en 2016, la doublette. Giroud, 2018, le mondial. 2020, Ciro Immobilier. Comment on le considère, mon cher Daniele?
Ben, très bien, moi très bien, mais en Italie il n'est pas... Non, on ne le considère pas très bien.
D'accord. Julian Alvarez en 2022 avec l'Argentine.
Qui fait un grand mondial.
Ouais, et puis donc Morata à l'Euro 2024. Qu'en pensez-vous les gars, la question que pose Edgar, mon cher, tiens, puisqu'il a cité Harry Kane. Vas-y Polo, et après Julien.
Non, mais c'est, moi la question que je ne comprends pas, c'est que c'est quoi un grand numéro 9? Parce que si on me dit que Morata c'est pas un grand numéro 9, ça veut dire que Klose n'est pas un grand numéro 9 non plus. Au vu de sa carrière.
Oui, mais avec
Klose, 14 buts en Coupe du Monde,
exactement.
C'est quoi le club?
Non, mais oui, mais là, on parle pas de
Brême.
Gagner des matchs le week-end en championnat.
On parle de ça, dans un très grand rendez-vous. C'est quelqu'un qui est bon en sélection, alors.
Ah, je sais pas comment tu veux le définir, toi, Edgar, ça, justement.
Moi, je pense que je parle plutôt d'une équipe qui jouerait sans numéro 9, c'est-à-dire un numéro 9 ancré qui est là, qui est titulaire à tous les matchs, qui va te mettre des buts quasi automatiquement quand tu lui fais un centre sur la tête. Je suis pas sûr aujourd'hui que tu sois obligé d'avoir ça, même si après il y a toujours cette phrase qui est vraie. C'est sûr que t'as un grand gardien, t'as un grand buteur. Normalement, c'est aussi la clé pour gagner des grandes compétitions. Mais j'ai l'impression qu'il y a des coachs aujourd'hui qui, mais il y en a eu aussi par le passé, mais qui ont la clé parfois pour être performant sans numéro 9.
Et Nico,
vas-y Daniel.
Je peux te faire l'exemple de Liverpool, que si vous regardez les équipes des jeunes de Liverpool, ils commencent à jouer avec deux numéros 9, en fait à 4-4-2, parce que justement c'est très difficile de former un numéro 9 en ce moment.
Dis-le Daniel, tu fais le travail de Julien Laurence, n'hésite pas, hein.
Non, c'est que j'ai connu un peu Julian Ward, le directeur technique de Liverpool, que justement il a eu cette idée, ils ont eu cette idée à Liverpool, parce que si toutes les équipes des jeunes jouent 4-3, ben t'as la moitié des possibilités d'avoir un vrai numéro 9. Lorsque si tu joues 4-4-2, tu vas peut-être sortir un numéro 9 de tes équipes juvéniles, et c'est très important parce qu'il n'y en a pas, il coûte très cher. Après, ça dépend aussi comment joue l'équipe. Arsenal, par exemple, je ne pense pas qu'il avait vraiment besoin des Gyökeres pour comment il joue. Il jouait mieux avec Merino ou avec un faux numéro 9. Mais c'est vrai que les numéros 9, ils sont très très chers dans les marchés.
Oui, sauf qu'Arsenal n'a jamais gagné pour le coup, Daniel, et cherche toujours à gagner.
Je pense que c'est pas les numéros 9.
L'Angleterre n'a jamais gagné avec un des meilleurs numéros 9 du monde aussi, hein, et Harry Kane, donc comme quoi.
Tout à fait. Bon, voilà Edgar. Bon, ton débat là a fait pchit.
Mais est-ce que Daniel
est intéressant?
Il faut savoir si.
C'est la question du grand numéro 9. Moi, je sais pas ce que c'est qu'un grand numéro 9. Parce que si on me dit que Morata, c'est pas un.
Oublie la mention grand, à mon avis, Polo.
Ouais,
est-ce
ouais,
qu'il faut vraiment
là,
un 9
du poste du 9.
Caractéristique, le 9 classique, le 9 qui est à retrouver des centres.
Donc je rappelle qu'en la Coupe du Monde 2014, c'est Thomas Müller qui commence la compétition, oui. Et c'est ensuite il sera mis sur le côté droit et c'est Miroslav Klose qui sera titulaire. La question aujourd'hui, les Allemands déjà ils aimeraient bien se la poser, c'est-à-dire que eux ils auraient besoin vraiment d'un grand numéro 9 parce que c'est leur histoire au passage, hein, sans revenir à Gerd Müller. Quand tu vois, quand t'as les Rummenigge et tout ça, ça aide quand même à avoir un palmarès. Maintenant, n'oublions pas que la question à ma connaissance, du faux neuf, entre guillemets, ça date d'il y a une vingtaine d'années. quoi. Donc ça devient systématiquement avec Guardiola, etc. Ça fonctionne maintenant. Moi, je me rappelle toujours de la phrase de Jürgen Klopp, c'est bien d'avoir des joueurs techniques qui sont dans la surface, qui savent tout faire et tout ça, mais moi, j'aurais juste un mec qui soit capable de mettre un gros coup de boule sur un corner, quoi. Mmh. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a ce genre de profil, et c'est pour ça que Samaka, c'est passionnant, parce que tu peux travailler avec des mecs comme ça dans la surface, on dit, ouais, mais il marque tout le temps, mais c'est pas que ça, c'est le travail qu'il fait sur la défense. C'est comment il empêche les défenseurs, etc. Ça permet de libérer des espaces pour les autres, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu as un faux neuf qui joue. Donc moi je trouve que ce débat vaut mieux avoir un neuf quoi, un mec qui s'est planté et qui a pas besoin de 50 occasions pour mettre au fond. Et t'as pas forcément besoin d'un grand neuf. T'as besoin d'un neuf. On le voit avec Kleindienst, on le voit avec Füllkrug, qui sont pas des grands joueurs.
Oui, le neuf caractéristique quoi, le neuf qui va saper une défense, qui va faire un travail.
Exactement.
Tipskamaka, Olivier Giroud, voilà.
Orsrubesh n'était pas un grand défenseur.
Mais exactement.
Voilà, c'est une question de sensibilité en tout cas. Et à celle de Polo.
Oui, mais c'est possible. Ça montre bien que c'est possible de gagner une finale de Ligue des Champions 5-0 sans avoir de numéro 9.
Tout à fait. Oui. Julien.
Ça dépend de ton style de jeu. Il faut un 9 qui s'adapte à ton style de jeu et qui correspond à ton style de jeu. Ce numéro 9 là, il peut être différent pour l'Espagne avec Arzabal que pour le PSG, que pour l'Allemagne, que pour l'Angleterre, que pour l'Italie. Ça dépend beaucoup de ton style de jeu. Si l'Italie continue à jouer avec Retegui et Mosy Kane ou même Scamacca et Retegui, ça peut très bien le faire pour leur style de jeu, le style de jeu de Gattuso. Mais ils auraient pu aussi gagner avec un autre numéro 9, avec un autre style de numéro 9 dans un autre style de jeu.
D'ailleurs, moi, un des meilleurs attaquants de l'Italie que je me souviens, c'est Di Natale en position de faux numéro 9. Quand il a marqué aussi contre l'Espagne, je ne me souviens plus en quel championnat d'Europe. Mais c'est vrai que nous aussi, on n'a pas de numéro 9 depuis longtemps. Et les meilleures équipes italiennes, c'était avec des solutions alternatives. Ou Totti avec la Roma, quand dans les années 2000... Totti il s'est blessé et après il a commencé à jouer numéro 9 attaquant et il a gagné même la chaussure dorée,
le soulier d'or.
Ouais.
Bien sûr, mais c'est marrant, c'est comme si, je sais pas, ce numéro 9 classique dont on parle, il en reste très peu. Hein. Bien sûr, Harry Kane est un vrai 9 également aujourd'hui. On peut citer également Lewandowski, exactement. Je sens que ce poste-là est un peu désuet, presque devenu kitsch dans l'esprit de beaucoup de techniciens qui, intellectuellement, veulent se priver d'un rôle défini comme celui-ci, en fait. C'est le temps d'avant, ne nous emmerdez pas avec vos 9 qui campent.
Ils favorisent la technique. Donc on va chercher des joueurs par exemple qui sont moins grands.
Enfin,
Danieli vient parler de l'Italie à Squadra 82, c'est Paolo Rossi, faut pas l'oublier quoi. Enfin c'est un truc de fou. On a l'impression que ce poste est presque mal aimé maintenant. Alors je sais pas si c'est mal aimé en France ou si c'est une mode aujourd'hui.
En France, en Espagne.
Quand même. Faut quand même se rendre compte que ça apporte un œuf sur le terrain quoi. Quand t'as une demi-occasion et que le mec te la met au fond, tu peux faire 50 passes avant et ne rien faire. Moi je me rappelle la période Guardiola du Bayern, il y avait un moment c'est bien d'avoir la possession dans tous les sens, faire des passes etc, mais si t'as pas un mec pour mettre un coup de boule et que ça rentre, moi je suis désolé, mais on peut tenter, évidemment on peut préférer le football de tricoter, dribbler tout le monde et rentrer avec la balle dans les buts, mais je suis pas persuadé que ce soit le plus efficace.
Oui, après t'as vu, tu caricatures un peu parce que le PSG, c'était un Dembélé par exemple pouvait marquer des buts en déviation la saison dernière. C'était pas uniquement passement de jambes, roulette, frappe enchaînée. C'était aussi un vrai travail intense de pressing.
T'aurais pas dit ça en début de saison.
Non, bien sûr. Sauf que Dembélé s'est parfaitement adapté à ce rôle-là et qu'il l'a fait évoluer. Bon, voilà les amis, bravo Edgar. Finalement, c'est un bon débat. Resterait plus de temps.
Mais par contre, moi, je pense que si j'étais entraîneur, alors évidemment, tous les supporters de foot sont très contents que je sois pas entraîneur parce que ce serait pas super, mais je pense avec un neuf parce que évidemment c'est beaucoup plus simple et c'est comme disait Polo, ça travaille sur la défense et je pense qu'il faut avoir un niveau de réflexion tactique aussi peut-être parfois plus avancé quand tu joues sans neuf parce que tu dois compenser des choses que t'apporte ton avant-centre.
Voilà pour ce débat, c'est l'heure de la quatrième minute musicale de la soirée. Elle est anglaise, on envoie la musique, Polo.
Dommage parce qu'on a perdu un grand chanteur aujourd'hui, Henrik Davis, le chanteur de Supertramp bien sûr, dont vous avez reconnu la chanson, j'en suis sûr. Et en fait j'avais une minute avant sur Peter Crouch qui a perdu, qui a fini dernier de son championnat de de fantasy football en Angleterre, le fameux fantasy Premier League, qui est un petit peu le bon petit gazon que vous avez chez vous et chez nous en Angleterre. Et souvent, quand tu finis dernier de ton petit championnat avec tes copains, bah t'as un gage, quoi. Et puis lui, son gage, c'était d'être une mascotte lors d'un match de 7e division, donc semi-professionnel. À Farnham, où donc il est rentré sur le terrain en tenant la main d'un joueur qui jouait lui sur le terrain, donc il était largement déjà plus grand et plus vieux que tout le monde. Mais c'était assez marrant de voir Peter Crouch. Mais je voulais aussi parler de la première journée du championnat féminin de d'Angleterre, bien sûr.
Vas-y, vas-y.
Non, mais juste rapidement, Daniel, il a fait 12 minutes. C'est sur vrai, sujet qui intéressait personne. Scamacca, il a fait 2 minutes. Mais... C'est bon, il était blessé, maintenant il est fort, il revient, il nous a fait 12 minutes. Donc moi, je me suis dit, c'est 2 minutes.
C'était pour pas regarder Italie-Israël, sinon je suis.
Oui, on a bien compris, Daniel. On a bien compris. Non, t'inquiète pas. Mais, et donc un peu de WSL quand même, parce qu'on a vu une très belle première journée avec une victoire de Chelsea contre Manchester City, le Chelsea de Sonia Bonpastor, qui repart sur les mêmes bases que son des dernières, même si c'est pas souvent du très beau football, c'est efficace, ça gagne. Et puis on attend le début de Grace Guayoro, bien sûr, qui a été transféré du PSG à London City. Liane aussi, c'est la joueuse la plus chère de l'histoire du football féminin, donc bravo à Grace. En plus, c'est ma Russe.
Ah, c'est une sœurette, voilà, ça y est,
bien sûr, c'est
question.
Une sœurette. Et elle sait très bien à quel point, même si elle va manquer au PSG, à quel point je suis content qu'elle vienne là, à Londres avec nous. Et puis plein de Françaises et de Français. Jocelyn Prêcheur, bien sûr, encore une fois à London City. Melvin Mala avec Manchester United, qui a marqué un doublé pour United lors du doublé. On a vu Everton remporter le derby de Liverpool contre Liverpool à Anfield. Donc voilà, c'était une très belle première journée de WSL, le meilleur championnat féminin au monde.
Polo, super tramp, non? Oui, non?
Bah oui, quand même, Polo.
The Logical Song, j'aime bien, ouais.
Ouais, quand même. Quand même.
Pas fan absolu.
Voilà les amis pour cette minute de Julien.
Et les Schools aussi, je crois, si je me rappelle mieux.
Ah, ça, je l'ai pas, ça. Dans un instant, on va parler du mercato, bilan mercato, notamment en Bundesliga. Reste avec nous, avec Polo, Julien, Daniele et Edgar. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec les drôles de dames, avant de passer la main à l'after, invité Joseph Ogourlian, propriétaire du Racing Club de Lens. Rapidement le direct, c'est aussi France-Serbie, les espoirs. C'est la mi-temps, Xavier Grimaud à Lorient.
Ouais, c'est la mi-temps depuis quelques instants. 1-0 pour l'équipe de France, le magnifique but hein, en lucarne de Mathis Tell dès la première, deuxième minute de jeu. Les Bleuets dominateurs, sans se créer énormément d'occasions. On a vu Wilson Odobert qui a un petit peu refusé le jeu, il a été tout seul, il aurait pu centrer au deuxième avec Baoya qui était tout seul, et une frappe du Gouchoukou qui est passée au-dessus des buts. Mais bon, la domination des Bleuets sans pour autant survoler la rencontre. 1-0 pour les joueurs de Baticle.
Julien, info importante chez toi, ça concerne Manchester City qui n'aura plus la même liberté pour faire rentrer de l'oseille grâce à son propriétaire désormais.
Ouais, alors c'est pas tout à fait très clair, mais en tout cas ce qu'on sait, c'est que la Premier League Manchester City était en bisbille un petit peu. Alors c'est pas le grand procès du siècle dont on vous a régulièrement
parlé. Ça n'en pas en cause en tout cas.
Non, ça n'en pas en cause du tout. C'est un truc complètement différent, mais ils sont parvenus à un accord à propos de l'arbitrage qu'avait entamé Manchester City. Ils n'étaient pas contents un peu plus tôt dans l'année concernant les règles de transaction entre parties associées en Premier League. Donc les règles de la Premier League, quand vous aviez un contrat sponsoring par exemple avec une société qui était déjà associée à votre propriétaire, pour simplifier les choses grandement. Et donc il y avait un litige entre les deux à ce propos-là. Aujourd'hui, ils ont trouvé un accord pour mettre fin à ce litige. Et Manchester City reconnaît maintenant donc la validité et le fait que les règles de la Premier League sur ces transactions entre parties associées donc sont valides et sont bonnes entre guillemets. Donc on peut les appliquer finalement, ce qui va donc permettre par exemple à Manchester City de continuer à avoir des contrats de sponsoring, ce qui va faire bondir Polo bien sûr, mais avec des sociétés qui appartiennent finalement à son propriétaire un petit
peu.
D'accord,
j'avais pas compris ça comme ça. Ils peuvent continuer à faire ça en fait avec des sociétés commerciales qui appartiennent au fonds souverain d'Abu Dhabi par exemple, et comme Newcastle avec l'Arabie Saoudite, ils pourront continuer de le faire.
Exactement.
Mais ça change rien en fait.
Attendez cette décision.
C'est quoi l'accord en faveur de City?
C'est de l'escroquerie dans
Avec... Ouais, ils attendaient donc cet accord-là pour pouvoir renégocier avec Etihad Airways, qui est donc la société aérienne d'Abu Dhabi, qui est aussi détenue par les mêmes propriétaires que Manchester City par exemple. Donc
tu vois, je crois que
c'est un accord qui change rien du tout.
Mais c'est fou, incroyable. Bon voilà. c'est valable pour Newcastle.
C'est même pire parce qu'on le valorise en fait.
Mais c'est-à-dire maintenant t'as le droit. Maintenant t'as le droit, il y a plus de problème.
Maintenant t'as le droit.
Vous voulez de l'oseille de votre compagnie aérienne qui appartient à votre propriétaire, c'est bon, allez-y. Ça passera en sponsoring. OK. Bon, tiens, on a pas beaucoup de temps, mais on va quand même faire un point rapidement bilan mercato. Je rappelle quand même les données. Bon, évidemment, vous le savez, l'Angleterre a envoyé l'oseille, plus de 3 milliards d'euros sur le mercato. Je vois que l'Allemagne, comme la France, seul pays des 5 championnats majeurs européens, ont une balance transfert favorable à l'issue de ce mercato qui s'est terminé la semaine dernière. Polo, je crois, si je me trompe pas, plus 160 millions d'euros pour les Allemands qui ont vendu au total plus d'un milliard d'euros vendus.
Alors, c'est plus d'un milliard d'euros de recettes, dont en gros les deux tiers qui viennent de Première Ligue.
C'est ça.
Ce qui est historique, aussi bien par le montant des recettes que par l'investissement de la Première Ligue. Et cela, évidemment, fait beaucoup réagir. Je rappelle rapidement, avoir un solde positif pour la Bundesliga, ce n'est pas la première fois, mais c'est arrivé notamment pendant la période du Covid, où les Allemands avaient besoin d'oseille, comme tous les clubs européens. Et historiquement, juste avant le Covid, la balance commerciale, je veux dire, des transferts, était négative en Allemagne, ce qui montrait la bonne santé des clubs. Et là, évidemment, ce n'est pas une volonté, c'est que c'est subi, puisqu'il y a deux tiers d'argent, et jamais la première ligne ne s'est autant servie qu'en Bundesliga, alors que le football allemand l'année dernière en Coupe d'Europe était mauvais, les résultats n'avaient pas été bons. Donc enfin, il y a en fait une dissociation entre comment tu investis et tes résultats sportifs. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que depuis à peu près un mois, il y a des discussions sans fin par rapport à ça. Et je vous ai parlé, je ne sais plus, c'est la semaine dernière, il y a 15 jours, de la fameuse course d'Ora qui est utilisée systématiquement pour dire en gros la Bundesliga, arrêtons de vouloir suivre la première ligue, ça ne sert à rien. Mais moi, ce qui me fait plaisir, même s'ils mettent 25 ans pour s'en rendre compte, c'est que il y a par exemple le patron de Brême, Klaus Filbri, qui a fait une déclaration assez extraordinaire, qui dit le football européen est foutu, le football globalisé est foutu, moi j'arrive plus à suivre. Donc je rappelle quand même, Brême c'est pas n'importe quoi dans l'histoire du football allemand, c'est aussi un stade de plus de 40 000 personnes. Aujourd'hui le Bayern subit ce qui vient de se passer avec Newcastle, évidemment c'est le transfert de Voltemed, PSG ou Manchester City. Moi j'arrive pas à suivre déjà ce que fait Dortmund et le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Donc il faut absolument qu'on revienne à une forme de régulation du football. Et en fait, ce qui est passionnant, c'est que les Allemands commencent à comprendre que ça ne sert à rien, cette histoire de transfert et de vouloir être compétitif à ce niveau-là, puisque la puissance de la Première Ligue ne suffit largement pour en gros remplir les caisses des clubs allemands, et qu'on n'a plus besoin d'être compétitif en Coupe d'Europe, puisque finalement ça ne sert à rien. Et le vrai problème, il n'a pas encore été mis sur la table, c'est pas le fait de l'exploitation des clubs anglais. Le problème, c'est les propriétaires. C'est-à-dire que quand tu peux, en plus d'avoir un championnat qui est le plus riche du monde, avoir des propriétaires qui mettent l'oseille en plus, c'est encore plus, pour les autres, compliqué. Or, l'énorme paradoxe, je le dis, pour le football allemand, c'est que jamais les clubs allemands n'ont été aussi bons dans la gestion et aussi riches, mais jamais ils peuvent aussi peu investir, non pas en volume, puisqu'ils ont dépensé plus de 850 millions d'euros, mais par rapport aux top joueurs internationaux, mais apparemment, ils commencent à se dire, mais on s'en fiche, finalement. Et jamais on a eu autant de personnes qui sont membres des associations allemandes. Donc c'est un énorme paradoxe. J'ai presque envie de dire un contre-modèle, ce qui n'est pas vrai par rapport au modèle allemand. Mais avoir la déclaration du patron de Brême, je veux dire, avant, quand quelqu'un dit ça, on dit, ouais, t'es un communiste, toi. Mais le mec, c'est le patron de Brême, il dit... C'est n'importe quoi. On est en train d'arriver à un système qui est complètement ridicule. Et moi, je bois du petit lait avec quand j'entends des déclarations comme ça. Ça fait des années. Enfin, il suffit de s'intéresser un petit peu. Mais l'autre problème qui risque de se passer pour les autres championnats que de la Bundesliga, c'est que si la Bundesliga se met à former pour la Première Ligue, par exemple. Mais c'est quoi les petits championnats? Il en reste quoi?
Ben oui. Tout à fait. Il te restera deux mastodontes en Allemagne et les autres se feront dépoiler par...
Non, mais même la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal et tout ça. Si les Allemands se mettent à faire de la formation, comme ils sont plus puissants que les autres, ils vont attirer les meilleurs joueurs. Et au bout de deux ans, ils vont les refiler à la Première Ligue.
Tout à fait. D'ailleurs, Première Ligue, résultat fin de mercato, balance des transferts, vente et achats, moins 1,417 milliard d'euros. Voilà,
c'est ça qu'il faut regarder.
Le mois et demi du mercato. Voilà.
Donc c'est chiffre ça, d'affaires annuel de la L1, nouvelle version.
Voilà. Moins 1,5 milliard négatif pour la première ligue. Alors la Liga, elle, se maintient à environ moins 60 millions d'euros. La Serie A à moins 80 environ. Seule la Ligue 1, forcée bien sûr de faire des économies, de ne pas trop dépenser et de surtout beaucoup vendre. Et la Bundesliga sont dans le vert. Voilà, on en reparlera bien sûr très bientôt. Alors, merci les drôles d'âmes, merci Julien, merci Edgar, merci Daniele. Toujours un partout entre Israël et l'Italie.
Daniele, encore une minute peut-être pour finir. Une minute.
Ouais, une petite minute.
Une minute de 5 minutes, il nous reste 5 minutes.
T'as tout dit jusqu'à Maca, Daniele, ou pas? Non, c'est bon.
Si vous voulez, je vous fais la chronique de ces matchs de folie.
Oh, l'autre nous a fait 3 minutes sur le foot féminin en Angleterre et il se la ramène à la fin.
Bon. Ah oui!
Ça va croquer les sœurettes, quoi, en plus, et les faire briller. Merci, les amis. Rendez-vous la semaine prochaine. Dans un instant, l'after. Joseph Gourlian est l'invité de Daniel Riolo. Gilbert Bribois. Bonne soirée à tous sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.